Bienvenue dans Classophonique, le rendez-vous des ateliers radio des collèges et lycées de Bordeaux.
Les élèves ont la parole tous les dimanches à 13h30 et les mercredis à 10h.
Des ateliers d'éducation aux médias et à l'information fait maison avec la clé des ondes.
Bonne écoute dans Classophonique. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la clé des ondes. Aujourd'hui sur le 90.10, on accueille un plateau particulier puisque ce sont les journalistes du club radio du collège Édouard Vaillant qui sont dans le studio aujourd'hui pour préparer une interview. Il y a donc Émilie, Lina, Ryan, Augustin, Anna, Pasatsuki, Jessica, Élise, Mathilde, Emma, Rosalie, Alice et Johan. Bonjour à vous tous.
Bonjour.
Et on va parler de sport aujourd'hui avec notre invitée Aurélie Bambuc. Bonjour Aurélie.
Bonjour à tous.
Aurélie Bambuc, vous avez de nombreuses casquettes, mais on était curieux de savoir comment est-ce que vous vous présentez.
Alors maintenant, je me présente comme une auteure et réalisatrice.
Autrice, réalisatrice, auteure, réalisatrice.
Moi, j'aime bien auteure plutôt qu'autrice. Et auteure et réalisatrice et ancienne journaliste.
Très bien. Journaliste sportive.
Journaliste de sport, oui. Qui pratique plus beaucoup de sport. Mais ouais, journaliste. Après, j'étais multicasquette aussi en journalisme et pas qu'en sport.
Et vous sortez prochainement un livre ?
Tout à fait. Un livre sur mes champions de parents. Mes parents, Roger Bambuc et Ghislaine Barnet, qui ont été champions d'athlétisme dans les années 60.
Très bien. Mais alors, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui, de vos parents et de leur parcours médaillé et engagé. Et tout de suite, on va rentrer dans le vif du sujet en parlant de ce parcours-là avec une première question d'Élise.
Oui, bonjour. On voulait savoir comment avez-vous réagi quand vous avez appris que vos parents ont été de grands athlètes.
J'ai réagi avec étonnement parce que j'étais enfant et que je n'étais pas née quand ils étaient athlètes. Et quand j'ai vu les premières images de mon père courant alors qu'il avait un ventre bedonnant pour moi, j'étais surprise de savoir que c'était la même personne.
Est-ce que c'était seulement de la surprise ou alors que vous étiez un peu en colère aussi, qui ne vous est rien dit, qui vous est caché la vérité ?
Non, j'étais pas en colère, mais je me posais des questions du coup. Mes parents sont très réservés, donc même si j'avais des questions, ils y répondaient pas forcément. Et tout de suite, alors c'était surtout le regard des autres, parce que les personnes réagissaient quand ils entendaient le nom Bambuc, parce qu'il a marqué son temps à un moment en étant le meilleur sprinter français. Donc moi, dès que je donnais mon nom, tout de suite, on me ramenait à mon père et on s'attendait à ce que je cours aussi vite que lui, par exemple. Quand on est enfant de champion, on se dit, bah forcément, toi, tu cours vite. Je courais très lentement. Donc voilà, c'était plus... Non, c'était de la surprise, de la curiosité. Ensuite, de l'agacement, parce que justement, quand on te renvoie à chaque fois à ton parent qui a fait des super trucs et que toi, tu débutes dans la vie, bah, t'es un peu agacé à te dire, bon, bah, moi, j'ai ma propre identité aussi. Et donc, voilà, et tout ça s'est transformé en fierté avec le temps.
Qu'est-ce qui a changé pour vous de, justement, connaître leur parcours ?
Le fait de connaître leur parcours, bah, ça m'a permis de le transmettre, par exemple, à mes enfants, qui eux, bah, ont tout à découvrir. Et j'avais pas envie qu'ils soient dans la même ignorance que moi, qui ai attendu assez longtemps avant de connaître tout leur parcours. Donc voilà, ça m'a permis de transmettre ce parcours. Ça m'a permis de découvrir une histoire que je connaissais pas non plus, parce que mes parents ont participé à 2 Jeux Olympiques. Mon père à Tokyo en 64 et à Mexico en 68. Ma mère à Mexico 68 et Munich en 72. C'est des Jeux Olympiques qui ont été où il y avait tout un contexte aussi historique fort. En 68, c'était les Noirs américains qui ont profité de cette tribune olympique pour défendre leurs droits et montrer à quel point ils étaient toujours victimes de ségrégation dans leur propre pays. 72, c'est les attentats à Munich contre la délégation israélienne. Donc j'ai découvert plein de choses dans l'histoire du sport et dans l'histoire du monde en général, en m'intéressant aux carrières de mes parents.
Comment ça se fait que vos parents soient multimédaillés et pourtant ne soient pas connus à la hauteur de leur performance sportive ?
Alors, mon père est plus reconnu que ma mère parce que, bah déjà, c'est les performances masculines. On s'intéressait plus et ça devient un peu plus à l'équilibre aujourd'hui, mais aux performances des hommes qu'aux performances des femmes. Ma mère a fait du saut en hauteur, elle a fait finaliste à Mexico. À Mexico, il y avait Colette Besson qui est devenue championne olympique du 400 mètres. Colette Besson a eu moins de une que mon père qui n'a pas été champion olympique. Lui, il a remporté la médaille de bronze. Mais donc voilà, donc je ne m'explique pas pourquoi on reconnaît moins leur performance, même si bon, on reconnaît quand même celle de mon père qui a marqué le sprint français, plus que celle de ma mère qui a pourtant été plusieurs fois championne de France de son hauteur, qui a détenu le record de France de son auteur également, mais c'est pour réparer aussi ces injustices que j'ai écrit ce livre pour que tout le monde connaisse l'histoire de mes parents.
Est-ce que vous avez été aussi victime de racisme ?
Alors moi j'ai été victime de ce qu'on appelle le racisme ordinaire. C'est-à-dire, tu as une apparence et forcément, on va te dire, bah, tu vas dans cette case-là. Quand j'étais petite, je faisais l'école de musique. À un moment, ma prof, elle m'a dit, bon, bah, toi, on va te mettre au maracas parce que tu as le rythme dans la peau. J'ai dit, ah, bah, non, j'avais pas le rythme dans la peau. Quand on. Voilà. Ouais, j'ai eu. J'ai subi ce genre de racisme et pour moi, je le. Enfin, ça faisait partie de mon quotidien, quoi. Quand on est dans la cour d'une école, on est différent des autres. On n'était pas beaucoup à être à la peau foncée comme la mienne. Donc, du coup, voilà, on a droit à c'est du chocolat. Il y a des références qui ne sont pas très sympathiques. Mais voilà, ça glissait sur moi parce que ça faisait partie, malheureusement, de la culture de l'époque dans les années 80-90. Donc voilà, mais après j'ai pas été victime au point où on m'a empêché de. Je suis d'une génération aussi où on s'est rendu compte qu'il y avait pas beaucoup de diversité par exemple dans l'audiovisuel à la télévision et qu'il fallait que les personnes de la télévision ressemblent aux personnes qui regardent la télévision et donc j'ai profité de ça aussi mais du coup c'est à double tranchant parce qu'il y a le côté on te recrute pour ce que tu représentes. Mais pas pour ce que tu es vraiment. Et donc voilà, donc moi j'ai été prise en télévision parce que j'étais noire, j'ai pu être recrutée en radio parce que j'étais noire, là ça m'a fait plus de mal parce que du coup je ne pensais pas qu'en radio la couleur avait son importance. Pour les recruteurs, c'était le côté on veut la diversité dans les accents. Je dis ah, c'est dommage, j'ai pas du tout d'accent. Moi j'ai grandi en banlieue parisienne, donc j'ai un accent plutôt de banlieue parisienne plus qu'autre chose. À la limite, je peux faire l'accent marseillais. Mais si c'était pour faire l'accent antillais, ça passait pas non plus. Donc voilà, il y a un côté un petit peu qui nous fait nous remettre en cause quand on se dit on a été pris pour un côté extérieur à son être, quoi.
Et comment vos parents ont-ils vécu le racisme en tant qu'athlète ?
Alors en tant qu'athlète, c'était par des petites, des petits pics lancés. Ma mère, par exemple, qui portait le maillot de l'équipe de France et dont on remettait en cause son appartenance à la France alors qu'elle portait le maillot de l'équipe de France. Une fois, elle était avec toute l'équipe, il y avait les médias qui s'intéressaient à elle, le média qui demande l'autorisation de pouvoir la photographier, et là, les responsables de la délégation qui disent « Non, pas elle, elle n'est pas française ». Et elle est obligée de se défendre à se dire « Comment ça, je ne suis pas française alors que je porte le maillot français ?» Donc, il y avait des remises en question comme ça. Mais après, leur statut, alors c'est surtout du côté de mon père, leur statut de champion faisait que ça pouvait atténuer, on va dire, la couleur. Quand on savait qu'il y avait un champion dans la salle, là, d'un coup, c'était pas le noir, c'était le champion. Mais par contre, mes parents, la première fois qu'ils ont cherché à avoir un appartement, ils n'ont pas vu les champions, ils ont vu le couple noir. Donc ils n'ont pas eu l'appartement. Et quand le propriétaire a découvert après qui était mon père, là, d'un coup, les portes sont ouvertes, ils pouvaient avoir un appartement, quoi. Et mes parents se sont délectés de refuser l'appartement parce que, d'un coup, leur statut changeait juste parce qu'il y avait un champion dans le lot, quoi.
Et comment ils se sont battus contre le racisme ?
ils se sont battus en faisant, en continuant en fait leur parcours professionnel. Ma mère a été enseignante pendant 40 ans à l'INSEP, qui est le temple des sportifs de haut niveau, à vouloir développer à chaque fois tout ce qu'elle entreprenait. Mon père est devenu secrétaire d'État dans un gouvernement dans les années entre 88 et 91. Donc voilà, en montrant que malgré les obstacles, malgré voilà, les mauvaises remarques qu'on peut leur faire, bah voilà, on continue d'avancer, on continue à travailler et on montre qu'on est capable de faire de grandes choses.
Qu'est-ce qui vous a décidé à écrire ce livre sur vos parents et pourquoi écrire, c'est important selon vous ?
Alors, ce qui m'a décidé à écrire ce livre, c'est la méconnaissance, en fait, que j'ai constatée des générations d'aujourd'hui de sportifs qui sont nés dans les territoires et départements d'outre-mer, sur leur passé, en fait, sur d'où ils viennent. Mes parents ont fait partie des pionniers olympiques. Mon père a été le premier médaillé olympique guadeloupéen. Ma mère a été la première sélectionnée martiniquaise olympique. Et ça, il l'ignorait complètement, les jeunes générations que je rencontre, parce que par ailleurs, j'ai préparé aussi un documentaire sur les jeunes champions d'outre-mer. Et donc voilà, donc à force de voir cette méconnaissance, je me suis dit, bon, il est temps que ça s'arrête. J'ai fait un premier documentaire sur mes parents. Et là, de le faire par écrit, bah, ça permet de se livrer un peu autrement, de ne pas être brouillé par l'image et de pouvoir raconter à ma hauteur, en tout cas, la manière dont j'ai vécu le parcours, les parcours de mes parents. Alors après, je profite de l'intérêt pour les Jeux Olympiques et toute l'histoire qu'il y a avec les Jeux Olympiques en France pour essayer d'avoir un petit coup de projecteur quand même sur eux, ce qu'ils ont pu faire. Et c'était important pour moi de le faire de leur vivant.
Qu'avez-vous, dans votre livre, qu'avez-vous voulu raconter de leur histoire ?
Ben, j'ai voulu raconter l'histoire de deux Antillais qui ont dû quitter leurs îles natales parce que ça se faisait à l'époque, parce qu'ils avaient des rêves de réussite dans l'Hexagone. J'ai voulu raconter l'histoire de deux Antillais qui découvrent comme ça l'Hexagone, qui doivent s'adapter, qui découvrent le haut niveau, qui découvrent les champions internationaux et les Américains en particulier. Leur combat, voilà, pour exister, pour continuer à s'élever, pour continuer à battre des records, pour continuer à dépasser leurs limites sportives. Leur vie d'après, parce que la vie d'un sportif, elle est courte finalement par rapport à la vie d'un être humain. Ça ne dure que quelques années. Leur vie d'après, qui est, pour moi a été aussi brillante que leur vie de sportif. Ma mère qui a eu cette carrière de haut niveau à l'INSEP. Mon père qui a tenté d'avoir une carrière politique, qui n'a pas persévéré, mais parce qu'il s'est rendu compte que humanisme et politique, ça n'allait pas ensemble. Voilà, j'avais envie de raconter tout ça aux jeunes générations et puis de rappeler ça aux générations qui ont l'âge de mes parents.
Quelle est la place du dom-tom et plus particulièrement de la Guadeloupe et de la Martinique dans les JO d'aujourd'hui ?
Alors dans les JO d'aujourd'hui, la place de la Martinique et de la Guadeloupe est essentielle. Sans les athlètes antillais, mais même plus globalement sans les athlètes ultramarins, la France serait moitié moins performante. En fait, au dernier jeu à Tokyo, il y a eu 33 médailles remportées par la France, donc c'était pas un super bon bilan. Sur les 33 médailles, il y en a 15 qui sont remportées par des athlètes qui viennent des départements d'outre-mer. Donc, elle est essentielle, alors que c'est des départements qui n'ont pas bénéficié de grosses structures. Mes parents, à l'époque, ma mère sautait dans du sable, mon père courait dans une piste en cendré, donc c'est aussi un truc granuleux, enfin, un truc sableux. Et donc, voilà, donc, ils n'ont pas bénéficié des mêmes structures qu'il peut y avoir de l'autre côté de l'Atlantique, et pourtant, ils ont réussi à chaque Jeux Olympiques à décrocher des belles performances. Donc les athlètes d'aujourd'hui suivent le même chemin sans savoir forcément que c'est un chemin qui s'est ouvert il y a très longtemps pour tous les athlètes ultramarins. Mais oui, ils sont essentiels à faire briller la France dans leurs performances.
On a observé que les Jeux Olympiques à Paris impactent beaucoup les habitants, notamment avec la réquisition des logements étudiants, les prix de la vie qui augmentent, l'organisation de passes dans Paris pour la sécurité de l'événement. Qu'est-ce que vous pensez de l'organisation des JO aujourd'hui ?
Ah bah, ça reste compliqué d'organiser des Jeux Olympiques, donc il y a des impacts effectivement comme ceux que tu viens de citer. Moi, j'ai eu la chance d'assister à des Jeux Olympiques. C'était en 1988 à Séoul, c'était en Corée du Sud. Et donc voilà, donc on mesure, oui, effectivement, que ben, on accueille toute la planète, en fait. Y a un pays qui accueille toute la planète pendant 2-3 semaines. Donc, c'est normal que ça provoque plein de chamboulements. Après, le tout, c'est que les choses perdurent derrière, que toutes les constructions servent derrière. Et donc, c'est surtout ça, moi, que j'observe. La promesse du village olympique qui devienne maintenant, qui, après les Jeux, seront transformés en logements pour... En Seine-Saint-Denis, voilà, il faut que les choses perdurent, que tout ce qui a été fabriqué, construit, et il y a peu de nouveaux bâtiments qui ont été construits dans le cadre des Jeux Olympiques de Paris. C'est ce qui a fait la différence aussi dans leur candidature. Ils ont mis ça aussi en avant. Mais voilà, que ça serve après, aux générations d'après, que les choses soient utiles, que ce ne soit pas juste fait pour l'événement des Jeux Olympiques, tout comme tous ces athlètes qui vont performer pendant 3 semaines, bah, qu'ils soient des déclencheurs pour des vocations futures pour les plus jeunes. Voilà, il faut que ça serve après les Jeux Olympiques. Ce n'est pas juste 3 semaines dans l'année.
Comment s'est passée votre scolarité pour vous ?
Très bien, merci. Et toi, la tienne, ça va ? ma scolarité s'est très bien passée. Moi, j'ai grandi en Île-de-France, dans le Val-de-Marne. J'ai fait collège, lycée, j'ai sauté une classe, j'ai fait des études de géographie, et puis voilà. Et puis j'ai été passionnée par l'audiovisuel très tôt. Si j'avais eu un club de radio dans mon collège, je pense que je m'y serais inscrite. J'ai lancé un journal dans mon lycée, une télévision à l'université. Et puis voilà, après, j'ai commencé comme stagiaire dans l'audiovisuel avant d'être prise comme journaliste.
Est-ce que vos parents ont été déçus que vous ne deveniez pas athlète ?
Pas du tout. Pas du tout, parce que j'ai jamais eu cette pression-là, en fait. Ils m'ont d'ailleurs mise en garde sur le sport de haut niveau. Pour moi, le sport, c'était bien-être, c'était le sport dépassement de soi. Mais le sport de haut niveau, c'est un autre sport. C'est un sport qui abîme le corps. Et je l'ai vu avec mes parents. Ma mère a eu une opération au genou. Mon père s'est arrêté aussi parce qu'il sentait que son corps n'allait plus pouvoir lui permettre de courir aussi vite. Donc voilà. Donc non, il n'y a jamais eu de pression. Ils ont eu des velléités à un moment de m'entraîner, sauf qu'ils ont un caractère très fort, très dur à beaucoup engueuler, et que moi je suis un bisounours, donc ça ne marchait pas du tout. Donc ils n'ont pas eu. Moi j'ai eu, ça m'a traversé l'esprit quand j'ai pu voir des athlètes de ma génération avec lesquels je m'entraînais, je les voyais performer. Moi je me suis entraînée par exemple avec Muriel Urtis, qui a été championne du monde du 4x100 mètres. Et voilà, quand je l'ai vu, bah, j'étais déjà journaliste en fait, et je l'ai même interviewé. Et là, je me suis dit, ça me fait bizarre d'être de l'autre côté, alors que j'aurais pu finalement être de ton côté si j'avais persévéré. Et finalement, non, j'ai pas jamais eu l'état d'esprit en fait de vouloir me battre pour être la meilleure, de vouloir me battre pour être en équipe de France.
Est-ce que vos parents vous ont encouragé dans vos voies de devenir journaliste, auteur ?
Pas plus que ça non plus. Ma mère aurait voulu que je sois enseignante. Elle n'arrêtait pas de me dire l'enseignement, c'est l'avenir. Et donc voilà. Donc non, ça c'est vraiment des choses que j'ai développées toute seule parce que j'ai toujours été passionnée par ça, passionnée par le fait de parler, de partager, de raconter des histoires. Le journalisme, ça part de là. Hein, ce sont des histoires d'actualité qu'on raconte. Et là, j'ai juste décidé de choisir mes propres histoires et pas que ce soit l'actualité qui m'impose les histoires. Donc c'est pour ça que je suis passée aussi dans la réalisation et dans le fait d'écrire et d'être auteur.
Qu'est-ce qui vous a fait rentrer dans le monde du journalisme ?
Le monde du journalisme s'est ouvert à moi quand j'étais stagiaire dans une émission pour les jeunes que personne n'a vue, d'ailleurs parce qu'elle n'avait aucune audience, qui était diffusée sur France 5 et qui s'appelait En juin, ça sera bien, tous les mercredis après-midi. Et en fait, c'est cette émission qui m'a permis, qui m'a donné ma chance en fait. Je faisais dedans, en tant que stagiaire, j'étais chargée de faire des portraits de jeunes sportifs passionnés de sport. Et ça avait déjà commencé à ce moment-là. Et donc, au bout de 6 mois de stage, on m'a proposé de rester. Et on m'a donné le choix entre être intermittent du spectacle et être journaliste. Et tout ce que j'ai vu dans ces deux choix, c'est que journaliste, il y avait une carte. Ça faisait sérieux. Donc voilà comment j'ai commencé à être journaliste. En fait, je suis pas passée par une école. J'ai appris vraiment sur le terrain avec d'autres journalistes. Après, j'ai fait des formations professionnelles parce que je me sentais pas suffisamment en confiance pour démarcher les médias en disant je vais être journaliste alors que ma seule expérience c'était dans une émission pour les jeunes. Et donc voilà, donc c'est comme ça que tout a commencé pour moi dans le journalisme.
Est-ce que pour être journaliste sportif, il suffit d'aimer le sport ou faut-il être un sportif ?
Non. Aimer le sport, effectivement, c'est pas une obligation d'avoir pratiqué le sport. Après, si on a pratiqué le sport, on connaît d'autant mieux les contraintes du sportif, on connaît d'autant mieux les règles même du sport qu'on va commenter. Moi, j'ai commenté de l'athlétisme, j'ai jamais commenté de football. Je serais incapable de déceler un hors-jeu, même en le voyant. En voyant des ralentis. Donc voilà, donc ça peut aider d'avoir pratiqué le sport, mais d'être passionné, on est connaisseur de toute façon. Donc oui, être passionné, c'est le minimum pour être journaliste sportif.
Est-ce que vous avez déjà rencontré des athlètes qui ont été racistes ou sexistes ?
Je ne crois pas, ou ils l'ont bien caché. Il ne me semble pas avoir rencontré ce genre d'énergumène, mais j'ai rencontré des grands défenseurs, par contre, de la cause humaine. J'ai eu l'occasion d'interviewer Tommy Smith, qui était l'un des deux Américains qui a levé son poing ganté de noir sur le podium de Mexico en 68. Donc voilà, donc là, j'étais bien impressionné. Ouais.
Vous allez bientôt sortir un documentaire où vous avez suivi de jeunes participants au JO. Qu'est-ce que vous avez souhaité montrer dans ce document ?
Que les générations se suivent, les générations de sportifs d'outre-mer se suivent et se ressemblent, même si avec le temps, il y a des choses qui évoluent positivement. Par exemple, mes parents ont connu le déracinement, mais c'était un déracinement obligatoire, quitter son île pour réussir en France dans l'Hexagone. Là, parmi les athlètes que j'ai suivis, il y a une sprinteuse qui est guyanaise, qui s'appelle Jemima Joseph, et qui tient à rester s'entraîner en Guyane et qui a tout fait pour avoir toute la structure qu'il fallait pour atteindre le haut niveau en restant en Guyane. Donc je vois que le déracinement n'est plus obligatoire. Il y a un attachement fort au territoire d'outre-mer. Et si on arrive à montrer qu'on arrive à faire des grosses performances tout en restant dans les outre-mer, il y a d'autant plus de fierté à représenter ces territoires. Et c'est ce que me montre cette nouvelle génération. Jemima, elle a réussi à faire ses minima olympiques en Guyane dans une compétition.
Comment on accède au JO ?
Comment on accède au JO ? En tant que participant, en tant que sportif ou en tant que journaliste ?
En tant que participant, participante ?
En tant que participant, en fonction des épreuves, il faut faire des performances pour pouvoir se qualifier. Je parlais de l'athlétisme, il faut faire des minima. Les minima, c'est un chrono minimum ou une performance minimum pour ceux qui font du saut en hauteur, du saut à la perche, du saut en longueur, etc. Donc, il faut faire cette performance minimum dans un temps imparti. Donc, en général, là, c'est un an. C'est depuis l'année dernière et jusqu'à fin juin 2024. Pour réaliser ça. Dans d'autres sports, les équipes sont qualifiées automatiquement parce que la France est le pays hôte, donc les équipes de handball, de basket, de tous les sports collectifs sont qualifiées. Par contre, à l'intérieur, il y a une sélection à faire qui dépend de la forme qu'on a, qu'on prouve toute l'année dans les clubs. Et voilà, après, il y a d'autres, dans les autres sports, il y a des compétitions en particulier durant lesquelles il faut briller. Par exemple, j'ai suivi un escrimeur martiniquais qui avait 6 Coupes du Monde pour faire la meilleure performance possible, donc pour faire le plus de podiums possible, pour remporter des points et être au top dans le classement français et décrocher sa sélection. Donc voilà, donc ça dépend des sports, mais il y a toujours une contrainte de performance à réaliser dans un temps imparti.
Qu'est-ce qu'on vous attendait des nouvelles générations et de leur investissement ?
Les nouvelles générations de sportifs d'outre-mer, toujours avoir cette même fierté de porter haut les couleurs des outre-mer, parce que ce ne sont pas des départements comme les autres, parce qu'ils sont à des milliers de kilomètres de l'Hexagone. Et donc, qui continue à transmettre, à être dans la transmission, justement, à être des exemples pour les plus jeunes, et puis qui puissent en plus véhiculer un peu l'héritage d'où ils viennent, en fait, qui puissent le transmettre aussi aux plus jeunes. Et c'est ce que j'essaye, moi, c'est la flamme que j'essaye de leur transmettre via mon livre, via ce que représentent mes parents, via ce que représente l'ensemble des anciens sportifs d'outre-mer. Donc voilà, j'espère que ça va perdurer pour qu'il y ait encore plein de champions d'outre-mer.
Eh bien, merci beaucoup. L'heure tourne et ça va être le moment pour nous de terminer cette interview. Merci beaucoup Aurélie Bambuc d'avoir répondu à notre invitation et de transmettre toutes ces questions. Je rappelle que votre livre « Mes parents, ce couple de champions » sortira le 17 juin chez Caraïbes Éditions et qu'on pourra retrouver aussi prochainement un documentaire donc sur France 3.
Tout à fait. Outre-mer, terre de champions, ça s'appelle, à partir du 10 juin.
Super, merci beaucoup. Bravo et un grand merci à tous les élèves du club de Radio Vaillant présents ici pour toute la qualité de votre travail, de votre investissement sur toute l'année. Vraiment, bravo. Moi, j'ai adoré vous suivre toute cette année. Merci beaucoup, évidemment, à votre enseignante Sarah Rosner, sans qui ça n'aurait jamais été possible. Et bien sûr, également un grand merci à Jean-Pierre Lefebvre de l'émission Histoire de voir, Histoire au pluriel, pour nous avoir laissé le studio à cette heure-ci et pour que nous puissions inviter Aurélie. Merci aux auditeurs et aux auditrices de nous avoir écoutés. On se retrouve bientôt et j'espère sur le 90.10 avec Radio Vaillant.
C'était Classophonique, le rendez-vous d'éducation aux médias et à l'information de la Clé des Ondes.
Merci à toutes celles et ceux qui ont participé à ces ateliers radio.
Si vous voulez réécouter ou partager cette émission, vous la retrouverez sur notre site lacledesondes.fr.